Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à notre radio web et bienvenue pour ce nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce. Au XIIe siècle, dans le roman d'Alexandre, un chroniqueur mettait en scène l'ancien roi de Macédoine, prêt à explorer les fonds marins. À cette époque, Alexandre le Grand bénéficie d'une vraie popularité. Il était le héros de nombreuses fictions médiévales relatant autant son parcours que ses conquêtes orientales, figure du chevalier vertueux mais aussi belliqueux. Si bien que le monde connu, c'est-à-dire le monde terrestre, le monde horizontal, n'avait plus de secret pour ce héros. Il s'agissait donc désormais de transgresser les espaces par une descente, cette fois verticale, vers le fond des mers. Alexandre est ainsi représenté dans ce que nous appellerions un bathyscaphe ou un sous-marin aux parois translucides. Mais quand nos yeux contemporains pourraient voir en lui une sorte de préfiguration de Jules Verne, le regard médiéval considérait lui que la curiosité était aussi un moyen de réfléchir sur soi-même, la possibilité d'acquérir autant le savoir que la sagesse. Alexandre, dans son sous-marin translucide, éclairait le milieu qui l'entourait, mais personnage d'exception, il était par ailleurs le seul capable de discerner la réalité de ce nouveau monde. Storia Voce vous propose aujourd'hui de découvrir comment la mer était perçue à l'époque médiévale, présente dès les premières pages de la Genèse. Elle est sans nul doute un espace central dans la géographie, dans l'économie de cette époque, mais elle reste aussi un univers fantasmé avec ses monstres, ses mystères et ses secrets, tant et si bien qu'elle devient un personnage incontournable de la littérature médiévale. Pauline Guéna, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro de Storia Voce. C'est la deuxième fois que vous répondez à notre invitation et je vous en remercie. Vous êtes historienne, médiéviste, doctorante à l'université Paris 4 Sorbonne. Vous finalisez d'ailleurs votre thèse, vous êtes dans la dernière ligne droite, une thèse consacrée aux relations entre Venise et l'Empire ottoman de la fin du Moyen-Âge au début de l'époque moderne. Et vous faites partie du groupe. Alors, je vous ai reçu pour Actuel Moyen-Âge, qui était un livre collectif. Nos auditeurs peuvent écouter l'émission enregistrée ensemble. Et là, vous venez de publier avec le groupe Quest. Vous allez nous dire ce qu'est le groupe Quest. Le bathyscaphe d'Alexandre, l'homme et la mer au Moyen-Âge, paru aux éditions Vendémiaire. Ce groupe Quest est assez étrange. Que fit-il exactement?
Alors, l'explication de la différence entre les deux groupes, c'est qu'on s'était vu à l'hiver dernier, il me semble bien 2018, pour présenter Actuel Moyen-Âge, qui était fait par l'équipe d'Actuel Moyen-Âge, donc qui est un blog visant à diffuser la recherche en histoire médiévale. Quest, c'est différent, donc c'est une autre association à laquelle j'appartiens, et d'ailleurs plusieurs des membres d'Actuel Moyen-Âge appartiennent à Quest. Quest, c'est vraiment une association de recherche pure. À l'origine, on faisait peu de diffusion à Quest. Elle a été construite comme une association interuniversitaire, donc basée à Paris, mais dans laquelle sont bienvenus tous les jeunes chercheurs, donc masterants, doctorants, de différentes universités. Et entre autres activités, on a des séminaires, donc des séminaires mensuels, qu'on publie maintenant sur revue.org, et tout est accessible gratuitement en ligne. Donc j'en profite pour signaler que les deux derniers numéros qu'on a fait paraître sont accessibles en ligne, c'est « Formes et usages de la Bible » et puis « Sexualité et interdit ». C'est les deux derniers, on en sort comme ça deux par an, qui sont vraiment axés recherche. Et puis, plus récemment, Quest a commencé à faire de la diffusion de la recherche. C'est quelque chose qui arrive de toute façon dans les universités, donc on se tourne vers ça. On a communiqué à Cluny, au rendez-vous de l'histoire de Blois. Et puis, les éditions Vendémiaire nous ont proposé un livre dont le sujet nous était laissé, en fait. C'est nous qui avions le choix. Et c'était vraiment un choix fantastique parce qu'on a été un groupe nombreux, on est 13 auteurs, à choisir que finalement c'était ce sujet, l'homme et la mer, qui nous rassemblerait le plus facilement.
Mmh. Et les grands esprits se rencontrent puisque Storia Voce vise précisément à développer le savoir universitaire, en tous les cas la recherche, et faire un pont entre la recherche universitaire et le monde, notamment le monde scolaire. Entrons directement dans le sujet, Pauline, si vous voulez bien. Vous commencez par une longue citation. L'introduction commence par une longue citation qui est une citation qui est extrêmement importante puisqu'elle est tirée de la Genèse. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament, et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Donc, cette citation est très importante parce que la représentation des éléments à l'époque médiévale est une représentation qui est tirée des textes sacrés.
Oui, tout à fait. En fait, quand on pense la mer au Moyen-Âge, pardon, surtout dans les textes qu'on a, donc qui sont des textes écrits par des ecclésiastiques, hein, tous les textes qu'on a avant le XIVe siècle, pour leur extrême majorité, sont des textes produits par des religieux. La Genèse est présente comme arrière-fond de pensée. Et donc, dans la longue citation que vous venez de lire, on a voulu la mettre en exergue in extenso, parce qu'elle est vraiment très belle. On voit dans ce texte qu'en fait, dès le premier jour, c'est la Genèse, donc c'est premier jour, deuxième jour, etc. Dès le premier jour, Dieu crée cette masse dans laquelle il y a déjà les eaux. Et en fait, plutôt que de créer la mer, il sépare la mer qui est sur terre de la mer qui sera au ciel. Donc la formation de la mer, elle apparaît dès le premier jour. Et donc, si je ne me trompe pas, un des passages donc, qu'on n'a pas cité ici parce que sinon c'était trop long, dit donc au début, il y a cette masse, on est au premier jour, et puis ça dit la terre était vide et informe, en substance hein, bien sûr, et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu était sur les flots. Donc vraiment, on a l'image d'une terre qui serait au début entièrement couverte par les flots, qui serait quelque chose de menaçant.
Et il y a la création des espèces, et notamment dans la Genèse, la citation de ce qu'on appellerait les monstres marins.
Oui, ensuite les monstres marins qui apparaissent, dont le Léviathan, et qui continuent à peupler en fait l'univers médiéval, parce que surtout ces textes-là sont connus, sont relus, etc.
Nous sommes dans l'univers médiéval, et un de vos chevaux de bataille, c'est de montrer la complexité de cette période, qu'on ne peut pas juger, j'allais dire, d'un trait. Or, ce livre montre très bien qu'il y a plusieurs périodes, mais il y a aussi géographiquement plusieurs univers de conception de la mer. Et d'ailleurs, même le terme de la mer et le Moyen-Âge serait impropre, puisqu'il faudrait parler plutôt des mers.
Oui, alors c'est dans le premier chapitre, en fait. Donc, comme vous le dites bien, en fait, on a la force de ce livre, c'est qu'elle est faite par des gens qui viennent de différentes disciplines. Il y a des littéraires, il y a des historiens, il y a des historiens de l'art. Et puis, il y a des gens qui sont spécialistes de différents espaces. Et donc, on a pu parler aussi bien de la Méditerranée, qui est, on va dire, pour la recherche française, la mer un peu par excellence, parce que traditionnellement, il y a beaucoup d'instituts français en Méditerranée, donc c'est aussi une recherche vers laquelle on se tourne. Et puis, grâce à certains chercheurs qui sont aussi spécialistes des espaces nordiques, on a pu parler beaucoup plus de l'espace baltique. Donc j'ai l'impression que dans ce livre, en fait, on peut circuler d'un espace à l'autre et réunir beaucoup d'informations.
Il y avait une richesse toponymique beaucoup plus importante à l'époque qu'aujourd'hui.
Alors oui, une vraie richesse toponymique et qui est liée en fait à une variabilité. Donc c'est à la fois une richesse et puis une complexité. C'est-à-dire que qu'on passe d'un globe à l'autre ou d'un portulan, hein, ces cartes portulans à l'autre, ou d'un texte à l'autre, tous les espaces ne sont pas forcément désignés exactement pareil. Autant les noms de villes commencent à se fixer, autant les noms de mers peuvent légèrement varier, les noms de golfes peuvent varier. Si on dit le golfe de Malé ou le cap Malé au sud de la Grèce, en fait, ça peut être un espace de 50 km autour, on ne sait pas exactement ce qu'on veut dire. Et donc, cette richesse-là cache un monde dans lequel on circule et qui n'est pas encore unifié du point de vue cartographique. Ça viendra plus tard.
La mer est perçue, on est dans l'histoire des représentations à travers cet ouvrage.
Oui, c'était un peu le but. Je pense que vous l'avez vu, en fait, dans la construction de l'ouvrage. En fait, on a un premier chapitre qui est vraiment la perception. Et ensuite, on s'intéresse à la façon dont les hommes, mais vraiment les hommes et les femmes riverains de la mer pouvaient habiter le rivage. Et ensuite, progressivement, on parle des marins. Et on remonte, c'est à la toute fin, vers les systèmes politiques. En fait, les grandes thalassocraties, les Abbassides, Venise, puis le Portugal, donc avec un passage comme ça. Mais l'idée, c'était vraiment de pas commencer par tout ce monde politique que finalement les férus d'histoire connaissent assez bien, et d'aller beaucoup plus vers une histoire en fait à fleur de peau, à proximité des personnages qui connaissaient la mer. Donc le premier chapitre a été rédigé beaucoup par des littéraires en fait, et c'est les textes des gens qui racontent comment ils voient la mer. Donc c'est aussi bien des encyclopédistes qui font des listes de poissons, hein, 12e, 13e siècle, c'est les grands siècles de l'encyclopédie médiévale. Donc on a à n'en plus finir des listes d'animaux qui déclinent leurs caractéristiques, avec des petites variations à chaque fois. Et en même temps, on peut avoir des récits de pèlerins, ou beaucoup plus rarement des récits de marins, mais ça c'est vraiment du pain béni pour les historiens parce qu'il y en a très peu. Et on finit par dresser un portrait type de la mer comme un espace relativement bien connu tout de même au niveau des espèces marines et un espace dangereux en fait.
Ce qui ressort, c'est que la mer reste, est un univers paradoxal. C'est un monde qui nourrit, par exemple, parce que c'est une, si vous me permettez l'expression, une terre nourricière, une mer nourricière, mais c'est aussi une dévoreuse de vie. Les marins ne savaient pas nager.
Oui, ça, on en est à peu près certain, hein, que peu de personnes, en fait, savent nager, qu'on a peur de la mer. Je suis contente que tu fasses la blague mer nourricière, on l'a fait aussi dans un titre, donc on en était très fiers. Et en effet, on sait aujourd'hui que pour tous les riverains, prendre la mer, c'est dangereux. Ça se voit par toute une religiosité axée vers la mer qui montre qu'on essaye de neutraliser les risques. Et en même temps, c'est nécessaire. Donc, il y a des pêches qui sont un peu banales et donc pas forcément très bien connues parce que pas très bien documentées. Et il y a de grandes pêches qui alimentent tout l'Occident. Donc, dans l'ouvrage, on s'est efforcé de traiter un peu tous ces types de pêches. Aussi bien le ramassage du corail dans le sud de la Méditerranée que les grandes pêches de harengs que certainement tu connais mieux donc dans tout l'espace nordique et qui alimentent totalement les marchés de l'Europe entière.
Je cite l'introduction. Les rapports à la mer sont donc d'une infinie diversité, variant très fortement au fil des espaces et surtout des époques, tant il est vrai que le Moyen-Âge est une période marquée par de très nombreux changements sociaux, culturels, économiques et politiques. Là aussi, ce serait une erreur de voir un monde statique.
Oui, alors pour donner deux, trois grands jalons, si on essaye d'aller vers là, si je pense à la Méditerranée, disons qu'à la chute de l'Empire romain, évidemment, donc on continue à avoir des petites navigations de cabotage, mais on pense qu'a priori, les gens naviguent moins en droiture, etc. On peur de toute façon s'aventurer en Méditerranée l'hiver, où il y a beaucoup plus de vent, hein, notamment en mer Égée. L'hiver, c'est vraiment difficilement navigable. Et au fur et à mesure, va se redévelopper une navigation. Alors il y a les Abbassides, qui au 9e, 10e siècle connaissent leur époque de gloire et maîtrisent bien les mers du Proche-Orient. Et ensuite viennent des thalassocraties plus italiennes. Donc c'est l'époque des républiques marchandes du 11e au 15e siècle. Et enfin, petit à petit, ça va progresser vers l'Atlantique et c'est l'époque du Portugal. Si maintenant je bascule vers les espaces nordiques, la chronologie n'est pas du tout la même. En fait, dans les espaces nordiques, le commerce va commencer à se réanimer au 7e, 8e siècle. Et c'est aussi le moment où commencent, tu l'attends, les razzias vikings, en fait, à l'extrême fin du 8e siècle. C'est Lindisfarne, l'attaque dans le Northumberland, et c'est le début des attaques vikings documentées dans tout le nord de l'Europe. Donc, les deux vont ensemble, en fait, piraterie et commerce, et puis on a ces rythmes, comme ça, d'alternance qui peuvent se découper.
Alors, venons-en, parce que c'est ce qui m'a attiré, évidemment, pour faire cette émission, c'est la couverture. Et le titre, le Batiscaphe d'Alexandre, et ce qu'on voit, c'est absolument incroyable sur cette couverture. C'est le roi, Alexandre, qui est dans une sorte de bulle marine, sous-marine, avec un coq, avec un animal qu'on imagine peut-être un chat ou un
chat,
lien.
Exactement.
Et puis des petits lampions, bien évidemment, ce qui montre que à l'époque, on savait que plus on descendait sous l'eau, moins il y avait de lumière.
Voilà. Ah, exactement. Voilà. Ce que savent les plongeurs aujourd'hui.
Alors, d'où vient cette image ?
Donc ouais, cette image, elle est vraiment très belle. Je pense que si tu as regardé à l'intérieur, tu en as une autre version. Donc c'est Alexandre qui descend au fond des flots, hein, bien sûr, c'est ce que tu as évoqué en introduction. L'image de la couverture, elle date du XIVe siècle. Donc c'est une des nombreuses illustrations de Alexandre descendant dans les flots. Et comme tu l'as dit au début, il est écrit qu'Alexandre descend dans un sous-marin qui lui aurait été créé sur mesure, tout fait de verre. Donc un artefact, on va dire, qui est impossible en fait pour le Moyen-Âge central, qui va devenir mais vraiment très complexe à faire pour la suite, donc qui est vraiment une merveille, on le pense comme une merveille. Et là c'est intéressant parce que l'artiste l'a représenté comme un tonneau de verre. Donc on voit le cerclage en métal, qui est quelque chose qui est vraiment séparé, parce que quand on défait un tonneau à l'époque, on récupère les cercles de métal, et puis on aurait construit l'intérieur en verre. Et du coup, pourquoi est-ce que Alexandre descend avec un coq et ce qui est un chat? Ça pourrait être un lion à l'époque, on ne sait plus très bien faire les lions en Europe, mais c'est un chat. Probablement, selon les encyclopédistes, ça fait partie de l'artefact. Donc attention, tiens-toi bien, le coq sert à marquer le temps, ce qui va de toute façon faire du bruit à chaque heure, etc. Donc ça, Alexandre sait depuis combien de temps il est descendu. Et le chat serait associé à une préoccupation hygiéniste. On commence à avoir des chats en Occident depuis le 11e, 12e siècle. On sait qu'a priori les chats, c'est des choses qui vont manger les rats, donc ça limite les puces. Et dans certaines représentations, et ça c'est vraiment le pompon, on l'associe à un chien. Potentiellement, donc ça c'est pas certain, mais potentiellement, parce qu'au moment où Alexandre veut remonter, il saignerait le chien, et il y aurait l'idée que le sang, un peu comme l'huile en fait, remonterait sur l'eau, donc ça lui permettrait de remonter. Mmh. Tout ça c'est des hypothèses, mais ça expliquerait pourquoi il est souvent représenté avec un ou plusieurs de ces animaux-là.
Mmh. Est-ce qu'on peut parler d'une représentation avec un dessin scientifique ?
Sur cette image, c'est vraiment délicat de parler de représentation scientifique parce qu'on comprend que l'intégralité de cette pensée relève de la merveille. En fait, on a associé les animaux à leurs caractéristiques plus mythologiques en fait, que scientifiques. Et donc, du coup, on est plus dans une représentation merveilleuse ici. Mmh. Par contre, c'est intéressant ce que tu demandes parce que si je vais à la dernière illustration, donc même scène, même idée, mais représentée par quelqu'un d'autre un siècle plus tard, 15e siècle, et là, on voit au fond de la mer l'intégralité des animaux qui entourent Alexandre. Et comme tu le vois, on voit très clairement des crabes, des soles, donc des animaux qu'on repère. Et en même temps, il y a des personnages anthropomorphes, donc deux bras, deux jambes, qui marchent au fond de l'eau et qui ramassent des fruits au fond de l'eau d'un verger. Avec cette idée médiévale qu'en fait, les animaux et toute la biosphère marine, en fait, seraient un miroir sous-marin de ce qui se passe sur Terre. Donc on est vraiment à la limite entre les deux.
C'est vraiment passionnant. Et alors, le point commun entre les deux images, c'est que Alexandre, dans l'un et l'autre cas, va sous l'eau, encore une fois, avec une lumière. Et il y a tout, le livre explique toute la symbolique de la lumière, finalement, puisque c'est un roi qui éclaire son entourage, au-delà de l'utilité même d'être sous l'eau avec une source de lumière.
Oui, sans doute, c'est aussi parce que comme Alexandre, c'est le roi savant, donc c'est aussi le roi clair, il est le premier à descendre sous l'eau et donc il va rapporter toutes ces informations.
Mmh. On a d'autres exemples comme ça de personnages que l'on met un peu sous l'eau, en dehors d'Alexandre ?
Je pense que le plus représenté, c'est Jonas, qu'on va avoir sous l'eau, et dans ce cas-là, c'est vraiment le pendant négatif, parce que Jonas, donc c'est ce personnage à qui Dieu aurait demandé d'aller prévenir dans la ville de Ninive que la ville allait être détruite s'il ne réformait pas.
Biblique.
Oui, tout à fait. Ouais, merci. S'il ne réformait pas leurs mœurs, évidemment Jonas prend peur, n'y va pas, s'enfuit en bateau. Et là, une tempête se déclare et Jonas se désigne comme coupable. On le jette à l'eau, la tempête s'apaise et un gros poisson, donc souvent représenté comme une baleine, vient manger Jonas. Là, il passe 3 jours dans le ventre de la baleine. Cette scène-là, elle est beaucoup représentée, cette fois-ci, pas pour aller vers une mer qu'on apprend à mieux connaître et qu'on apprivoise, mais pour montrer les dangers de la mer, en fait.
Mmh. Mmh. Est-ce qu'on pense le fabuleux ou on est plus dans un mode d'observation ?
Tu veux dire, est-ce
de la réalité. Est-ce qu'on souhaite, tu présentais l'image avec notamment tous ces animaux sous-marins, mais en même temps, il y a ces personnages qui sont sous l'eau, qui sont représentés sans vêtements, ou en tous les cas tout en noir, tout de noir vêtu. On est dans le monde du fabuleux, on n'est pas dans l'observation. Est-ce qu'il y a plus de représentation du fabuleux qu'une simple observation de l'univers qui nous entoure ?
Je pense que ça dépend vraiment du médium qu'on utilise. Alors là, il faudrait évidemment que les littéraires qui aient écrit soient là pour m'aider dans ma réponse, mais il me semble que, très clairement, si on représente de façon graphique, alors on est plus dans du fabuleux, parce qu'on s'adresse prioritairement à un public de laïcs lettrés, ou à un public d'ecclésiastiques qui recherche peut-être plus du divertissement. Donc on fait des images belles et on verse vers le fabuleux. Alors que si on prend des encyclopédies, donc de Hildegarde de Bingen, qui est une femme savante du XIIe siècle, jusqu'à Brunetto Latini au XIIIe siècle, on va avoir des listes extrêmement précises des animaux, avec leurs attributs, leurs caractéristiques, ce qu'on pense être leur façon de vivre, en fait. Et là, on est dans le scientifique.
Mmh.
Les deux coexistent, et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment, parfois, certains des attributs donc scientifiques, encyclopédiques, glissent dans une image, et vice-versa.
Mmh. Un des sous-chapitres les plus intéressants, c'est le sel de la mer. Précisément, on recherche le pourquoi. Pourquoi la mer est-elle salée ?
C'est drôle que ce chapitre t'ait plu parce que je crois qu'une histoire similaire t'avait déjà plu dans l'émission qu'on a faite en février. La question de pourquoi la mer est salée, on se la pose encore aujourd'hui hein, scientifiquement, donc c'est une question tout à fait valable, ce qui montre qu'au Moyen-Âge, en fait, on a vraiment une approche scientifique du monde. Et il existe différentes propositions. Et la proposition qui a dû te plaire, c'est celle de Al-Masoudi, donc qui est un savant arabe du Xe siècle, qui se pose cette question, qui propose plusieurs hypothèses, et qui finit par aboutir à une hypothèse, qui serait que, de même que quand on transpire, on produit une sueur salée, la terre transpirant produirait une mer salée. Et ça expliquerait pourquoi, et c'est ça la question en fait, les cours d'eau et les fleuves sont doux, alors que la mer est salée. Donc une hypothèse qui est assez intéressante, parce qu'en fait on va vers la conception d'un monde qui est vivant dans son intégralité et qui est uni, qui est un être en soi.
Alors sortons de la science, venons-en à la littérature, elle est bien évidemment très présente, et il y a tout un passage sur sur ce qu'on connaît tous, Tristan et Isolde, ces deux personnages de la littérature médiévale ont un sort lié à la mer.
Oui, belle rime parce qu'elle est souvent faite par des poètes médiévaux, donc elle marche très très bien pour l'émission. Oui, Tristan et Isolde, ça fait partie de ces personnages dont l'histoire est complètement imprégnée de ce qu'on appelle la matière de Bretagne. Donc la matière de Bretagne, c'est en fait quand on puise dans toutes les histoires qui sont connectées à la légende du roi Arthur, pour le dire vite, et qui vont finir par imprégner jusqu'aux chansons de gestes françaises. Dans Tristan et Isolde, toute l'histoire est connectée à la mer, parce que si on essaye de penser leur histoire géographiquement, Tristan vient de Petite-Bretagne, donc notre Bretagne, la Bretagne française, la péninsule. Le roi Marc, donc l'époux de Isolde, vit en Cornouailles, et Isolde elle-même vient d'Irlande, ce qui rejoue un peu le stéréotype de la femme étrangère, lointaine, etc. Donc il y a vraiment tous les stéréotypes. Et donc chaque étape de leur histoire est ponctuée par un parcours en mer. Et notamment le moment, tu sais, où ils boivent le philtre d'amour, c'est en mer, comme à chaque fois. En soi, c'est intéressant pour l'histoire parce que ça la relance, mais en fait, ça puise beaucoup plus loin parce que dans la matière de Bretagne, en général, on a beaucoup d'allers-retours en mer qu'on n'a pas forcément dans d'autres traditions. Par exemple, si on pense au roi Arthur, donc vraiment le stéréotype de la matière de Bretagne, la fin de sa vie, une légende raconte qu'il aurait été emporté par la fée Morgane pour finir sa vie dans l'île d'Avalon, donc qui reste une île mythique du folklore médiéval aujourd'hui. Donc cette matière, et c'est pas étonnant en fait, on est entre la Petite et la Grande Bretagne, les gens qui écrivent ça voient la mer, la fréquentent, et donc l'insèrent dans leur légende.
En posant ma question, j'ai fait une erreur, je n'ai pas parlé de la mer, mais de l'amour. Or, l'amour, la mer, L'A-M-E-R, apparaissent comme liés. Et le terme même de mer, on se demande d'où il vient, et il viendrait du terme amertume.
C'est possible en fait, alors c'est possible. Le jeu qu'on a, la mer, l'amour, qui est décliné à l'infini par les poètes jusqu'au 19e siècle, commence dès le Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, les poètes se sont bien rendus compte que mare, donc la mer, et amarus, l'amertume, ça rimait très bien. Donc ils les font rimer. Et la mort aussi, bien sûr, l'amour. Toute la question est de savoir, est-ce que ça rime juste très bien, ou est-ce que ça a la même origine étymologique ? Et Isidore de Séville, donc, qui est un grand scientifique du 7e siècle, donc on est vraiment dans le haut Moyen-Âge, a décliné toutes les étymologies de nombreux mots. C'est une de nos rares sources pour le 7e siècle, donc on s'y raccroche. Et en même temps, c'est toujours facile en cours de rire d'Isidore de Séville, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'étymologies un peu fantaisistes. Donc il propose que la mer et l'amertume aient la même origine. C'est pas bête, la mer c'est salé, donc ça marcherait bien. En fait, probablement, ça fonctionne pas comme étymologie, mais c'est pas important que ça fonctionne ou pas. Ce qui est important, c'est que tout le Moyen-Âge lit Isidore de Séville, donc auteur du 7e siècle, et donc reprend cette étymologie.
On évoque Tristan et Isolde, mais il y a aussi l'évocation des voyages qui est important, et un des plus importants de la littérature médiévale, c'est le voyage de Saint Brindan. C'est comme cela que ça se prononce ?
Saint-Brédan, Brendan, en fait, que c'est un saint anglais, on peut le prononcer de plein de façons.
Que racontent ces voyages ? J'ai beaucoup ri au fait que, visiblement, tout le monde veut s'attribuer les différentes îles des voyages de Saint-Brendan.
Parce que, forcément, c'est un personnage extrêmement important de la mythologie. Mais de toute façon, ça fait partie de l'histoire cartographique un peu classique, fin 19e, début 20e, où ce qu'on essayait de faire, c'est de prendre les îles, que ce soit Antilia, Avalon, ou même l'Atlantide, qui est la plus célèbre. Mais en fait, il y en a des tas d'îles qu'on a essayé de s'attribuer. De prendre la carte et de se dire, forcément, ils sont passés par une île. Laquelle était-ce ? Ça marche pas toujours, en fait. L'histoire de Brendan, elle est vraiment intéressante parce que c'est un saint. Et là, cette fois-ci, donc, ça associe des récits, des légendes à la mer, mais avec un versant spirituel. Donc tout de suite, on change d'angle. En fait, Saint Brendan, lui, doit se rendre dans une île et sous la coupe du voyage spirituel. Et lui-même va mettre 7 ans pour faire un voyage qu'un autre personnage a mis quelques jours à faire. Avec l'idée qu'en fait, dans le voyage, on a un parcours personnel avec des épreuves qu'on doit franchir.
Donc il y a autant dans la littérature, c'est autant les drames de l'amour que ça peut être la recherche spirituelle.
Oui, et ça va l'être de plus en plus si j'avance un petit peu dans le temps. Donc là, on quitte l'espace ouest et si on va vers la Méditerranée au 11e, 12e, commencent les croisades. Donc cette région étant ouverte, commencent les pèlerinages qui se font essentiellement en bateau. Et pour aller en bateau, on risque sa vie, on paye beaucoup d'argent, c'est énormément d'inconfort. Et donc on finit par associer les deux. C'est-à-dire qu'on souffrira dans le voyage, mais c'est pour un bien spirituel.
Est-ce qu'on compare la mer au désert ? Parce que le désert, c'est toujours le lieu de la pénitence, de la recherche sur soi, de la recherche individuelle, de la recherche spirituelle. Le Christ va au désert, Saint Jean-Baptiste va au désert, les ermites vont au désert. Est-ce que la mer, dans cette quête spirituelle, est également, à la même fonction que pourrait avoir le désert ?
Je me pose la question, j'ai pas d'exemple en tête, donc j'ai des exemples contemporains en tête, hein, où la mer fonctionne comme le désert, ça marche bien, etc. J'ai pas d'exemple médiéval qui me vienne là tout de suite, mais tout simplement peut-être parce que si on veut fixer une religiosité sur la mer, il y a déjà des textes qui fonctionnent bien dans le texte biblique en fait. Que ce soit le moment où Moïse écarte les eaux, que ce soit, si je vais vers le Nouveau Testament, le moment où Matthieu, l'évangéliste Matthieu, raconte que le Christ aurait marché sur les flots. Il y a déjà ces passages-là qui existent.
La mer rouge, la séparation de la mer rouge, et on est toujours dans le paradoxe, soit c'est Jonas qui, le pauvre, se fait manger par un poisson avant de et il reste 3 jours, ou au contraire le côté positif de la mer qui, grâce au doigt divin, se sépare pour laisser passer le peuple d'Israël.
Oui, alors le côté positif de la mer, parce que Dieu a impliqué son empreinte dessus, etc. Toujours, la mer est du coup toujours un espace où la maîtrise de l'homme diminue. Et on sent que la maîtrise diminue.
Alors justement, parlons de cette maîtrise, c'est une excellente transition. Là aussi, il faut sortir de la vision d'un Moyen-Âge peu productif, peu créateur, puisqu'on parle de construction navale et on parle de techniques de navigation à l'époque médiévale.
Oui, il y a énormément de bateaux pour le Moyen-Âge, hein, évidemment, et de beaucoup de styles. Donc ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est de revenir sur les différentes formes de bateaux, donc les galères méditerranéennes, les nefs, les cogues de l'espace nord, donc de donner leurs caractéristiques principales, mais de toujours montrer comment est-ce qu'en fait les historiens font ce travail pour savoir comment étaient les bateaux médiévaux, sachant qu'on n'en a pas beaucoup de épaves de cette époque. Et donc on a soit des épaves, soit quelques descriptions iconographiques, soit des actes notariés. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces différents types de bateaux, où aujourd'hui, quand on parle d'un bateau, on peut nommer son type, on sait ce que c'est, et bien pour le Moyen-Âge, on sent qu'il y a beaucoup plus de variations. Et parfois, au sein même d'un texte, donc si c'est une distinction galère, nef, c'est très clair, peut-être qu'on y reviendra ensuite, mais si on est dans des navires qui sont proches, on voit que le type du navire n'est pas toujours très clair, et que parfois, dans certains textes, on a un texte qui commence en disant « La caravelle est entrée dans le port de Chypre, et puis 10 lignes plus loin, elle repart chargée, et c'est une nef. » Du coup, qu'est-ce que vous faites de ce texte-là ?
Il y a une influence des hommes du Nord qui est importante, notamment dans le langage, des mots comme skip, skipper, bit d'amarrage, une, auban, esquif, cric, houle, flotte. Tout cela, ce sont des mots qui viennent du Nord de l'Europe.
Oui, alors tout ça, c'est des mots, donc c'est Tobias Bostad qui l'a noté ici. C'est des mots qui seraient d'origine viking, tout simplement. Et parce qu'en effet, c'est eux qui, fin 8e siècle et jusqu'au 11e siècle, développent des techniques maritimes dans l'espace nordique. C'est des mots qui ont été repris après. Par exemple, le skip dont tu parlais, donc on voit très bien ce que c'est un skipper aujourd'hui, c'est quelqu'un qui conduit le navire. Ça viendrait du long skip, donc le long bateau, qui est ce que les Français appellent le drakkar, donc les bateaux d'attaque des Vikings.
On naviguait principalement en cabotage, de port à port?
C'est la théorie principale, c'est que oui, on navigue en cabotage parce que c'est moins dangereux et qu'on peut se repérer, et on peut éventuellement tous les soirs se mettre à l'ancre quand on trouve des criques. Après, est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'on trouve beaucoup plus d'épaves le long des côtes, tout simplement parce qu'on s'échoue plus le long des côtes. Donc il y avait un article qui était paru il y a maintenant 3-4 ans, qui proposait comme théorie l'idée qu'en fait, on était en cabotage, mais que parfois, quand un navire disait « nous avons passé tel port », donc c'est très classique, des listes de ports à passer, sans doute, c'était parce que mentalement, il se repérait par rapport à ces ports, ça ne voulait pas dire qu'en permanence, les ports étaient en vue.
Il y a des pêches hauturières?
Oui, certaines pêches hauturières, notamment la pêche au hareng dont on parlait déjà. Comme il s'agit d'attraper des bancs et que ça vaut vraiment la peine, on parle sans doute de centaines de bateaux qui vont chercher les bancs de hareng. On va parfois jusqu'au Groenland, hein, fin 15e siècle, on ira jusqu'au nord de l'Atlantique pour les pêches hauturières.
Est-ce qu'on connaissait les vents et l'influence de la lune, par exemple, sur les marées?
Oui, ça, c'est certainement, peut-être même plus que, enfin, pas plus qu'aujourd'hui, mais dans le sens où, tant qu'on n'a pas de carte et tant que les moyens de repérage sont assez sommaires, hein, les moyens de repérage, c'est 11e siècle, astrolabe, 12e siècle, boussole, 13e siècle, tout début des cartes portulans.
Donc, c'est l'astrolabe, vraiment très lent.
L'astrolabe, c'est quelque chose qui permet de repérer sa latitude. Donc, par un système assez complexe, et c'est pas parce que ça arrive en Méditerranée que tout le monde le maîtrise tout de suite, en fait. Donc tous ces systèmes de repérage en fait arrivent très doucement, et le système de repérage principal, qui parfois se combine en fait avec des systèmes techniques, c'est avoir l'habitude de l'espace. Et donc souvent quand on est pilote dans telle région parce qu'on connaît les fonds de telle région, les vents de telle région, etc. Donc il y a vraiment toute une expérience de la mer qui est très importante. On ne se met pas à naviguer n'importe où sans quelqu'un du coin.
Alors nous allons faire, je l'annonce à nos auditeurs, une émission avec le professeur Dussen, qui est belge, qui est un des plus grands experts de la cartographie médiévale. Mais peut-être quelques mots sur ces cartes. Quand est-ce qu'elles apparaissent exactement et comment se développent-elles?
Alors, monsieur Dussen étant extrêmement spécialiste de la cartographie arabe, je vais m'en tenir à la cartographie occidentale. Je parlais des portulans tout à l'heure, qui apparaissent fin 13e siècle. Les portulans, c'est des cartes vraiment typiques. On en a des exemples dans le livre. Si vous les avez en tête, ce sont ces cartes très colorées qui représentent la Méditerranée. Parfois, ça s'étend à l'est jusqu'à la mer Noire. Et au fur et à mesure où on avance vers la fin du 14e siècle, début du 15e siècle, on va aussi avoir le nord-ouest de l'Afrique. Mais c'est tout. Donc, c'est vraiment centré sur cette région-là du monde. Et ce sont des cartes qu'on peut lire dans différents sens, parce qu'en fait, le but est de mettre le maximum de toponymes en noir et rouge le long des côtes. Donc on a les côtes méditerranéennes, extrêmement bien tracées, l'intégralité des toponymes. La particularité de ces cartes, c'est qu'en fait, elles ne sont pas forcément à l'échelle. Ce qui compte dans ces cartes, c'est moins la projection, comme ça va apparaître au XVIe siècle, que l'exactitude du trait de côte. Ce qui montre bien en fait que c'est la façon principale de naviguer.
Les hommes qui étaient dans ces bateaux, une des grandes découvertes de votre livre, c'est que je pense que tous nos auditeurs ont en tête le schéma, la coupe longitudinale des grands navires modernes du XVIIe, XVIIIe siècle, avec ces centaines d'hommes qui ont chacun une tâche. Or, vous montrez dans ce livre qu'il y avait déjà beaucoup de monde sur ces bateaux et que régnait une forte discipline parce qu'il y avait une sorte de promiscuité.
Oui, forcément. Si on prend une galère, qui sont les navires où on met le plus de monde, on va avoir 120 rameurs, peut-être au maximum une centaine de personnes en plus. On arrive à plus de 200 personnes sur un navire. Et donc, forcément, les règles de discipline doivent être extrêmement strictes. En plus, les hiérarchies sociales sont plus marquées à cette époque. Dès qu'on a des statuts ou le moindre règlement judiciaire, en fait, on voit que tout est calculé. Que ce soit le droit des marins à manger, le droit des marins à s'embarquer, les moments où ils seront payés, les moments où ils ont le droit de partir, tout ça est extrêmement réglementé. Et on arrive à des détails qui sont extrêmement intéressants. Alors par exemple, les rameurs ne sont pas, donc ça c'est pas une découverte du livre, on le sait, mais c'est toujours intéressant de le dire, les rameurs ne sont pas des esclaves, c'est ce qu'on a en tête pour le XVIIe, XVIIIe siècle, ce sera beaucoup plus des captifs en Méditerranée. À cette époque-là, ce n'est pas le cas, en fait, c'est des libres, mais on va pouvoir faire appel à des flux d'immigration, donc des gens extrêmement pauvres qui n'ont pas le choix et qui doivent s'embarquer, ou alors faire appel à des vilains dans le système féodal, donc des serfs. Et donc tous ces gens-là, a priori, vont se confronter à des périodes en mer où ils s'engagent et ils n'ont pas le droit de quitter le bateau après. Et parfois, on a des cas de procès où finalement, arrivé dans un port, on a une mutinerie et les gens du port vont demander justice à la justice locale en disant « mais on nous avait promis tant de nourriture, on est mal nourri, on nous avait promis tant d'arrêts, on n'a pas nos arrêts, etc. » Donc évidemment la pression n'est pas dans les deux sens égales, mais on peut aussi avoir une pression des équipages contre les capitaines parfois.
Mmh. On apprend que souvent les marins étaient payés avant de partir.
Ah forcément, sinon on n'a pas envie de s'embarquer. Quand on est rameur, c'est très dur, la mortalité est très importante. Donc une des solutions pour recruter, c'est de dire bon, on va vous payer la moitié tout de suite. Mmh. Si vous avez une famille, si vous avez des dettes, vous partez avec un petit pécule.
Mmh. Et il y avait beaucoup de désertions ?
Oui, ça vraiment, de toute façon, les capitaines de navires s'en plaignent. Donc c'est toujours difficile de dire, parce que évidemment, quand ils s'en plaignent, est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas biaisés, etc. Mais apparemment, recruter est vraiment un problème, et garder les marins à bord reste un problème.
Il y a aussi les musiciens.
Ah, les musiciens, oui, mais alors pas forcément pour l'usage auquel on pense. Quand on a 5 navires et qu'on essaye d'avancer 2 conserves, c'est important d'avoir des trompettes pour savoir qui va faire quoi à quelle heure. Ou quand on a 40 pèlerins sur son navire, les trompettes permettent aussi de marquer l'heure du déjeuner, éventuellement l'heure de la prière, etc. Donc ça marque le temps. Mais de toute façon, on est dans un... C'est le Moyen-Âge, donc on est dans un monde où le temps est marqué assez fortement par des rythmes sonores. Il y a tout un paysage sonore qu'on a perdu et qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui.
Rythme sonore, mais aussi rite religieux. Le religieux est en mer. Il y a des prêtres, des pères qui s'embarquent.
Oui, ça, c'était pas facile à trouver comme information. Alors, on les trouve dans les récits de pèlerins. Et fort heureusement, les pèlerins partant pour une cause religieuse font très attention aux rites de bord. Et donc, du coup, on a des descriptions qui sont assez précises. Donc, je pense que tu l'as vu dans le livre, un des principaux problèmes, c'est que on évite de s'embarquer avec du vin de messe et des hosties consacrées. L'idée, c'est que c'est littéralement le corps du Christ. On est après la réforme grégorienne, 10e, 13e. Et donc, on évite de perdre le corps du Christ, donc pas en mer. Donc, on trouve des substituts. Alors, par exemple, il y a un texte de Félix Faber, qui est un pèlerin de la fin du 15e siècle, qui explique que le capitaine de bord peut parfois dire la messe, ou alors un prêtre la dira, et quelqu'un à côté de lui tiendra le tableau de la Vierge qu'il lève. Comme ça, ça permet de reproduire un environnement qui est un peu familier.
Au-delà du religieux, Pauline, est-ce que nous restons dans un monde de superstition par rapport à cette mer mystérieuse que l'on craint ?
C'est délicat parce que là, il faut que je tranche entre superstition et religion. Donc, je préfère fonctionner par exemple. Et comme ça, tu trancheras toi-même ou vous trancherez vous-même. Un exemple qu'on rapporte dans le livre, qui m'a semblé vraiment intéressant, c'est une histoire qui se passe à bord. Donc, Moyen-Âge tardif, Méditerranée. Il y a une panne de vent. Et donc, a priori, le bateau est coincé. On ne sait pas que faire pour repartir. Et donc, le capitaine fait venir l'équipage, donc fait venir les gens qui ont un peu d'argent, a priori, fait marquer des noms de saints sur des petits papiers qu'il fait plier. Donc, personne ne sait ce qu'on a. Et il les fait tirer au sort par les gens. Et donc, chacun doit faire un vœu. Et le vœu doit évidemment être d'attendre du vent, sinon c'est tricher. Et ensuite, lire le nom de son saint et puis jeter le papier par-dessus bord, en s'engageant, si le vent reprend, à aller faire des offrandes à ce saint en arrivant au port. On est dans un système religieux, c'est vraiment le système de vœux suivi d'une offrande ou d'un pèlerinage, et en même temps on rajoute le tirage au sort, une certaine obligation, une forme de collectivité. Donc on adapte les pratiques religieuses.
Alors je reviens aux gens de mer et à cet événement historique qui est extrêmement important pour l'Occident médiéval que sont les invasions vikings. Est-ce que nous avons un moyen de connaître quelles étaient les origines de ces invasions? Pourquoi ces invasions?
Tout ça, il y a un débat là-dessus, et Tobias Boestad répondrait mieux que moi sûrement. Différentes hypothèses sont avancées, qui en fait recoupent les hypothèses traditionnelles des moments où on a des invasions comme ça. Ça pourrait être soit une transformation climatique, et du coup il descendrait vers le sud.
Donc on parlait déjà du changement climatique à l'époque médiévale?
Ah ça, ça ferait une belle émission. Oui, c'est certain qu'il y a un changement climatique à l'époque médiévale. Il y a tout un petit âge glaciaire qui s'arrête au XIIIe siècle. C'est le début d'un petit âge glaciaire qui potentiellement les pousserait.
Donc première thèse, changement climatique.
Voilà, il y en a plusieurs. Deuxième thèse, une transformation matrimoniale, le fait qu'on passe à une polygamie qui est une polygynie, donc le fait d'avoir plusieurs femmes, et donc des jeunes célibataires qui seraient en recherche de richesses pour s'établir. Ou alors tout simplement le fait que l'Europe est en train de s'enrichir mais n'est pas encore solidement politiquement défendue. Et donc du coup c'est plus facile d'aller attaquer.
Dans ce que vous venez de dire, il y a un mot très important, c'est la jeunesse. On est surpris de voir des hommes jeunes qui embarquent majoritairement sur ces bateaux.
Oui, de toute façon, le Moyen-Âge, c'est un monde qui est plus jeune que le nôtre, hein, ça c'est certain. On a des gens qui arrivent au pouvoir vers 20 ans, on est un homme mûr à 40 ans, donc les rythmes de vie ne sont pas les mêmes. Après, c'est sûr que c'est encore plus marqué parmi des combattants et donc parmi des Vikings.
Et les femmes aussi sont présentes sur les bateaux.
Ah, grande découverte archéologique, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Donc on a trouvé dans une tombe un squelette qu'on a toujours associé, donc un squelette viking, qu'on a toujours associé à un combattant. Et en fait, en regardant les os, on constate que c'est une femme, c'est certain. Donc la question, c'est est-ce que c'est une femme qui a été enterrée avec des combattants ou est-ce qu'il y avait des femmes vikings qui combattaient? Et il y a d'autres pistes qui laisseraient penser, donc c'est pas encore confirmé, mais que des femmes vikings combattraient. On en a vraiment beaucoup parlé de cette source parce que c'est vraiment... C'était quelque chose qui avait été fouillé précédemment et on avait pris pour acquis le fait que c'était un homme à cause de tout l'environnement en fait, archéologique. Et en fait, finalement, notre regard est peut-être plus, le mot machiste s'est déplacé, hein, mais plus patriarcal que l'étaient certaines sociétés.
Alors, nous avons évoqué les Vikings, bien évidemment, qui sont ni plus ni moins que des envahisseurs. Nous sommes dans le cadre d'une guerre. On apprend dans votre ouvrage aussi que... les corsaires en fait apparaissent au Moyen-Âge, alors qu'on voit cela plutôt comme une invention de l'époque moderne. On les voit apparaître au Moyen-Âge, donc les corsaires qui étaient des personnages mandatés par le pouvoir afin de faire régler l'ordre sur les mers.
Oui, alors toujours dans cette grande distinction entre corsaire et pirate. Pirate, c'est vous pirater pour votre propre compte et vous vous enrichissez. Corsaire, c'est vous pirater pour le compte d'un roi ou d'un petit seigneur qui éventuellement vous a donné une lettre vous donnant cette autorisation. Et théoriquement, vous lui reversez un pourcentage de votre gain. Donc il y a des corsaires au Moyen-Âge, c'est certain. Et en même temps, être corsaire, c'est toujours utiliser des corsaires, c'est la force militaire des plus faibles en fait. Donc on va avoir beaucoup de corsaires génois, par exemple, ou des corsaires catalans, qui sont des puissances maritimes importantes, mais pas des puissances maritimes très centralisées, comme les Venises, par exemple. Et donc, tout de suite, passer du côté corsaire permet de mener des attaques qui sont un peu différentes.
Il y a donc une réglementation, vous évoquiez tout à l'heure les différents procès qu'il pouvait y avoir après une expédition. On est surpris de voir qu'il y a une volonté d'écrire le droit de régler le comportement de chacun et de tous.
Oui, ça arrive progressivement. La réglementation, le droit des mers, hein, qui monte doucement, c'est nos derniers chapitres, parce que vraiment l'idée, c'est d'arriver à ça. C'est de partir des pratiques pour voir comment ça construit la norme et pas le contraire. Cette réglementation, elle se met en place petit à petit. C'est pas parce qu'elle est écrite qu'elle est appliquée, mais elle fonctionne souvent beaucoup par liste avant de se régulariser, de se normer. Et donc, on a des listes de comportements qui sont tolérées par les riverains, par les marins, et d'autres qui sont interdites. Et dans les interdictions les plus fréquentes, en fait, il y en a certaines qui nous semblent évidentes parce qu'on les retrouve aujourd'hui. Par exemple, le droit d'épave. Donc le droit d'épave, qu'est-ce que c'est ? C'est quand un navire s'échoue sur la côte d'un seigneur, le seigneur, a priori, a le droit de récupérer les bris du navire et les marchandises qui sont à bord. C'est beaucoup d'argent, hein. On est dans un monde de la rareté matérielle, donc récupérer les bris d'un navire, c'est énorme. Chaque fois qu'un... Anecdote intéressante, souvent quand un pirate prend un navire, il ira se réfugier dans un port, il vendra les biens du navire, et puis éventuellement désossera le navire pour le vendre bout à bout. Donc le droit d'épave, c'est important. Et ensuite, sur ce droit-là, interviennent certains traités, donc ils peuvent être soit des traités bilatéraux, soit des traités plus importants, qui décident qu'entre deux seigneurs ou entre deux princes, il respectera les navires de l'autre. Et donc ça implique de commencer à avoir des drapeaux, une signalisation, etc.
Les taxes maritimes au IXe siècle avec Louis le Pieux, c'est complètement incroyable.
Ouais, ça c'est vraiment très impressionnant. L'histoire des taxes, en plus, elle est toujours dure à faire parce que on a toujours quelque chose de très morcelé. C'est-à-dire que pour le haut Moyen-Âge, hein, le IXe siècle, on essaye de placer les taxes sur une carte et alors on sait qu'il y en avait dans tel col de montagne, dans tel port, dans tel endroit. Et toute la question est de savoir qui les levait. Est-ce qu'on avait des agents royaux ? Est-ce qu'on avait des administrations ? Ou pas encore ? La plupart du temps, ces taxes-là, elles sont données en affermage. C'est-à-dire que c'est un droit de taxe qu'on donne à des particuliers qui vont l'acheter pour 5 ans, 10 ans, etc. aux enchères.
Et on parle aujourd'hui beaucoup de traçabilité de la nourriture. Et vous avez retrouvé un texte au XVe siècle, début du XVe siècle, où les autorités urbaines, je vous cite, sont conscientes des enjeux sanitaires liés au transport du poisson sur la longue distance. Et là encore, nécessité de régler ce qui peut être vendu.
Oui, ça c'est sûr qu'on en a. Alors toutes ces réglementations de normes sanitaires, d'hygiène, etc., ça commence bien avant en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est ces réglementations qui doivent s'appliquer à des objets qui circulent. Et du coup, c'est un défi technique en fait. Administrativement, c'est compliqué. Donc il y a plein de façons de le faire. Je parle beaucoup des harengs, mais les tonneaux de harengs sont intéressants parce qu'ils sont marqués en général. Donc ils sont assermentés d'un certain espace. Quel autre exemple on pourrait avoir ? Ah oui, si on pense aux normes d'hygiène, tout simplement la maladie. Toute fin du Moyen-Âge, on commence à avoir les lazarets qui apparaissent. Le premier apparaît à Venise. Dès qu'on sait que la peste ou une maladie est dans une ville, on essaye de bloquer les navires qui viennent de cette ville. Donc évidemment, tous ces systèmes peuvent nous sembler extrêmement artisanaux. C'est quelque chose de quand même à petite échelle. Mais ça permet de penser à un monde qui fonctionne avec des flux de circulation et qui doit essayer de protéger les locaux.
Et ces flux passent par les ports, malheureusement. Nous n'avons pas assez de temps pour présenter cet univers absolument grouillant que sont les ports, grouillant et non moins fascinant. Merci beaucoup, Pauline.
Merci, c'était un plaisir d'être à cette émission.
Le Batiscave d'Alexandre, l'homme et la mer au Moyen-Âge. Il s'agit d'un ouvrage collectif du groupe Quest, donc aux éditions Vendémiaire. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.